Thomas Bauer, bonjour.
Lucie Mouillot, bonjour.
Qu'avez-vous voulu montrer à travers ce documentaire?
Une des choses qui était à l'origine de l'intérêt que j'ai porté à ce projet, c'était la fabrique de la justice, en fait. Et à partir du moment où j'ai donc rencontré tous les jeunes qui avaient été raflés en Mbeulaye à la veille du second tour des premières élections démocratiques en Guinée, très vite j'ai compris comment en fait s'organiser avec les avocats des ONG, la préparation à la déposition qui potentiellement pouvait avoir lieu à la cour de Dixine. Donc j'ai voulu mettre en scène en fait ces préparations. Et ce qui s'est passé, c'est que les avocats avaient toujours des contretemps, donc ils venaient pas. Et donc j'ai rapidement demandé aux jeunes qui étaient devenus des trentenaires, parce que on est 10 ans après en fait les faits, de jouer eux-mêmes en fait le rôle des avocats.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la préparation de ce procès?
C'est toute une organisation de la parole et une hiérarchisation de la parole qui est extrêmement intéressante. Par exemple, quelque chose qui a été repris dans la séquence finale, qui est des phrases qui ont été notées pendant les audiences, c'est que par exemple le juge n'appelait pas les victimes par leur nom. Et quand il les appelait à la barre, il disait une des victimes n'a qu'à venir. Donc les victimes étaient globalisées dans la manière dont le juge les nommait. Alors que les avocats qui travaillaient avec donc les victimes tentaient exactement l'inverse, c'est-à-dire leur disaient ne parlez jamais de vous au sens global, mais parlez uniquement de l'expérience que vous avez vécue. Et c'est le cumul de toutes vos expériences qui fabriquera l'opinion qui aboutira au jugement.
D'ailleurs, certains ont des difficultés à ne parler que de leur expérience. Pourquoi, selon vous?
Ben, c'est pour notamment l'un d'eux, Bilali. C'est quelqu'un qui est très actif au niveau du groupe et c'est quelqu'un qui remotive beaucoup les gens. C'est quelqu'un qui croit vraiment qu'ils vont arriver à faire aboutir ce procès. Je pense que c'est devenu un engagement politique inné, en fait. C'est-à-dire que faire aboutir ce procès, pour eux, c'est faire aboutir un engagement pour le pays. C'est aussi un engagement pour leurs frères qui sont plus jeunes, etc. Et donc c'est un engagement très au-delà de ce qui leur est arrivé. Parce que depuis, il est arrivé plein d'autres choses. Et ils ont vraiment l'impression de s'inscrire dans une chronologie qui les précède et dans une chronologie qui leur succède, d'exactions qui sont liées à l'État.
Ils ont toujours espoir, ces jeunes que vous avez filmés.
Parce que c'est des gens extrêmement courageux, je pense. Parce que c'est un groupe très soudé. C'est des gens qui ont vécu quelque chose d'horrible ensemble et c'est quelque chose qui les a soudés. Alors après, ils se découragent, hein, par moment, mais il y en a toujours qui y croient et qui remotivent les autres. Ils ne croient pas en l'État. Ils ne croient pas que l'État va vraiment les aider à obtenir leur procès. Mais ils pensent qu'ils peuvent se battre par le biais de la justice. Ouais.
Ces jeunes avaient été arrêtés le 23 octobre 2010 au carrefour Concasseur de Conakry, en plein entre-deux-tours de l'élection présidentielle de Guinée. Que s'est-il passé ce jour-là?
Alors, du côté des pouvoirs publics, on dit que le cortège du gouverneur de la ville est passé devant le carrefour et qu'il aurait reçu des pierres. La garde présidentielle est donc arrivée au quartier d'Omdelaï avec plusieurs pick-up et ils ont commencé à ramasser tous les gens du carrefour. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un représentant guinéen des droits de l'homme qui s'appelle Aliou Bari. Et il a tout de suite été agressé par un militaire et il s'est réfugié dans l'atelier dans lequel travaillaient la majorité des jeunes qui ont porté plainte. Et c'est comme ça que tout l'atelier a été raflé. Ils ont été emmenés dans le camp militaire le plus proche. Là, ils ont été battus à 3 reprises. Le dernier ordre a été de les transférer donc dans un autre camp qui s'appelle le PM3. Et ils sont restés 3 jours là-bas. Puis ils ont été libérés. Actuellement, le procès est enterré à nouveau. Suite aux 2 audiences auxquelles j'ai assisté, le juge a été muté. Et depuis, le ministre de la Justice, Cheikh Sakho, qui était quand même quelqu'un qui poussait beaucoup à que ces procès aient lieu, a fini par démissionner suite au problème du changement de la Constitution.
Pourquoi avoir décidé de traiter de cet événement de l'histoire récente de la Guinée et pas du massacre du 28 septembre 2009?
Alors quand j'ai commencé le travail, le dossier du 28 septembre n'était pas clos. Donc je travaillais dessus, mais on attendait que le dossier soit clos et qu'il y ait les premières mesures pour organiser le procès. Le procès des jeunes de 2010, il y avait eu 2 audiences déjà. mais ça faisait un moment que le procès était endormi. Donc j'avais potentiellement la possibilité de demander à filmer le procès, ce que j'ai fait, mais j'en ai jamais eu l'autorisation. Et donc en fait, le procès, c'était d'arriver à reconstruire le procès, puisqu'on avait déjà filmé les répétitions. C'est le cinéma qui venait relayer la fabrique de la justice, quoi.
C'est la première fois que vous travaillez sur la Guinée. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à ce projet?
En fait, le démarrage du projet relève d'une invitation, donc du responsable pour l'Afrique de la FIDH à l'époque, qui s'appelle Florent Angel. Les premières choses dont on discutait avec Florent, en fait, c'était de l'évolution du pays, c'était l'évolution géopolitique, quoi. Donc, l'intérêt, c'est de découvrir quelque chose qui a une proximité lointaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très proche de nous, qui explique les flux migratoires guinéens en France. Et donc, le film, c'est quelque chose qui vient jouer dans cet échiquier-là, de partir d'un événement contemporain, mais d'essayer de faire ressortir le passé, d'où les choses viennent, en fait.
Thomas Bauer, merci.